Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. En ce début de vacances scolaires, en cette fin d'année scolaire, on peut ressentir plus fortement cette lassitude. Ça peut être physiquement, on se rend compte qu'on a une dette de sommeil. Ça peut être mentalement, le stress, on est assailli de multiples informations auxquelles il faut répondre immédiatement. C'est parfois l'impossibilité de couper le travail, même le week-end, la difficulté de collaborer avec les autres. Et c'est pour cela que, à la lumière de l'Évangile, je voudrais vous parler ce matin autour de trois mots. Lassitude, sagesse et joug, ou joug léger, on pourrait même préciser. Lassitude, sagesse et joug. Ils seront en effet un chemin pour passer de la lassitude à la joie. Lassitude, donc, sagesse et joug. On peut éprouver donc cette lassitude dans notre travail. Et c'est une situation qui peut être d'autant plus déprimante que le travail en lui-même est bon, est une réalité bonne, que l'homme s'accomplit par son activité. Ce n'est pas le travail en lui-même qui nous accable, c'est la pénibilité du travail qui nous accable. Voyez le petit enfant, il court partout, il aime être actif, et si son activité parfois nous épuise, c'est que nous n'avons plus le même souffle, nous n'avons plus la même vigueur, plus la même souplesse. Mais nous voyons en lui une vraie joie à transformer le monde, à faire aboutir un projet. Nous pouvons le voir auprès d'autres, c'est les scouts ou les guides qui partent en camp, c'est les JMJ qui se préparent à partir au Portugal, c'est l'ingénieur qui termine son viaduc, le peintre sa toile. Il y a une joie à conduire notre travail, à achever notre travail et à voir le fruit produit par notre travail. Cependant, c'est vrai, la pénibilité est venue parasiter l'œuvre de l'homme depuis le péché originel. Notre travail est devenu labeur, notre travail est devenu laborieux, pénible. Les peuples ont alors œuvré dans leur histoire pour trouver une voie dans ce monde compliqué et malade, dans ce monde qui résiste. Les peuples ont œuvré pour trouver une façon de vivre avec les autres, de vivre avec soi-même, une façon de travailler et de vivre qui puisse porter un fruit véritable, un fruit qui demeure. Cette voie que les différents peuples ont cherchée partout dans le monde, de différentes manières, peut être identifiée sous un nom unique, la sagesse. L'Antiquité parlait de sagesse. Et quand elle désignait, quand elle parlait de la sagesse, c'était pas seulement une sagesse spirituelle, mais c'était aussi une sagesse extrêmement concrète. On parlait de la sagesse de l'artisan qui savait comment travailler le bois. On parlait de sagesse pour désigner celui qui connaissait le sens du bois dans lequel il allait travailler, les propriétés de chaque essence, qui savait lui donner une forme à la fois esthétique et fonctionnelle. On parlait aussi de sagesse pour le bon orateur, non pas simplement pour la profondeur de ses propos, mais aussi pour la façon pédagogique qu'il avait de les transmettre. On parlait de sagesse, enfin, pour désigner celui qui percevait le monde à partir de sa cause première, celui qui était capable de lire, de relire une vie en percevant le principe d'unité, le principe d'harmonie. Et en définitive, la sagesse était la qualité principale demandée à un roi pour qu'il gouvernât habilement son peuple. La sagesse apparaissait donc comme la solution à la pénibilité du travail, la solution à la pénibilité du travail de l'œuvre humaine. Car la sagesse évoque tout à la fois un savoir-faire dans une situation pratique et aussi une capacité, en comprenant l'être des choses et des personnes, à les mettre en mouvement, à les mettre en mouvement en collaboration avec fécondité, à les mettre en œuvre harmonieusement. Si bien que la sagesse, au contraire de l'amertume du labeur, de la stérilité, rendait le goût à l'existence. Vous savez, en latin, on aimait rapprocher les mots « sagesse »,« sapientia » en latin, de « sapere », »,« saveur », »,« goûter », »,« savourer ». »,« sapientia » et « sapere ». Mais où est-ce qu'on allait trouver cette sagesse? Comment s'en emparer? Parce que les sages et les savants s'y sont attelés, mais ils cherchent toujours. Le peuple d'Israël a cherché lui aussi cette sagesse qui était auprès de Dieu dès le commencement du monde, cette sagesse qui connaissait aussi bien les secrets les plus profonds de l'univers que la volonté de Dieu. Mais le peuple d'Israël avait appris une chose. La sagesse est un don de Dieu. La sagesse est un don de Dieu. On ne s'en empare pas avec violence. Et il fallait se mettre à son école. Le livre du Siracide disait ceci, « Venez à mon école pour pouvoir pratiquer la loi. » Salomon, le fils de David, devint l'exemple du roi qui demande la sagesse au Seigneur et qui se met à son école. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus, vrai fils de David, accomplit cette figure de la sagesse. Ou plus exactement, il se présente lui-même comme la sagesse dont parlaient les Écritures, comme la sagesse que cherchaient en vain les sages et les savants. Il est celui qui connaît le Père. La plénitude de la révélation, c'est de se découvrir fils bien-aimé du Père. Il est celui qui connaît le Père et qui peut le révéler. Et il appelle à nous mettre à son école, prendre son joug, prendre le joug du Christ. Et le joug dont il parle est joie pour le cœur de l'homme. Vous savez, le joug, c'est cette espèce d'instrument qu'on met sur le cou des bêtes pour tirer l'attelage. Donc vous imaginez deux chevaux ou deux bœufs à qui on met un joug. Et le Christ dit « Prenez mon joug ». Alors quand on entend ça, on n'est pas forcément extrêmement emballé par l'image. On dit « C'était déjà lourd et vous me demandez de mettre un gros truc là pour aller tracer des sillons dans la terre ». Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Il faut peut-être se rappeler deux choses. La première chose, c'est que le joug n'est pas mauvais en soi. Ça a été une invention remarquable en agriculture pour éviter que les bêtes ne s'étouffent. Les premiers jougs qu'on avait faits, ça appuyait sur le cou des bêtes, donc quand elles poussaient, elles étaient étouffées et elles ne pouvaient pas utiliser leur pleine puissance. Les joues, à cette époque-là, et notamment en Israël, avaient été perfectionnées au point que, du coup, non seulement lorsqu'il y avait deux bêtes, les bêtes ne s'étouffaient plus, mais en fait, le positionnement de l'une des deux bêtes lui permettait de se reposer, tandis que, de temps en temps, du coup, on faisait passer l'une devant, l'autre derrière, parce que la charge n'était pas exactement la même. Donc l'image que le Christ utilise, c'est ce joug, on pourrait dire renouvelé, et ce joug qui permet le repos de l'un ou de l'autre alternativement. C'est pour ça qu'on parle du joug qui est doux. Il permet d'accomplir l'ouvrage et il ne blesse pas, il ne meurtrit pas. Le repos du Christ, du coup, n'est pas stérilité, mais fécondité de l'œuvre de Dieu, parce que l'œuvre est accomplie avec douceur. Vous vous souvenez peut-être dans les Béatitudes, de cette béatitude, qui est-ce qui possédera la terre ? Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Vous avez bien entendu, heureux les doux, et pas heureux les mous. Il y a une différence. Heureux les doux, ils posséderont la terre. On n'a pas dit de heureux les mous. La douceur de Dieu n'est pas une mollesse. Elle est comparable à la douceur des mains du potier. Il faut qu'elle soit ferme sur la glaise, sinon il ne donne pas de forme. Et en même temps, il faut qu'elle soit mesurée, sinon on détruit la forme. Alors on pourrait se demander, mais du coup, ok, on veut se mettre à l'école du Christ, on veut découvrir cette sagesse qui permet de retrouver du sens à notre œuvre, de ne pas devenir l'esclave de notre œuvre, mais d'y trouver notre accomplissement. Mais quelle est la première étape ? Est-ce qu'on peut avoir une première étape pour entrer dans cette école du Christ ? Il y a une première étape qui est justement une prise de conscience. La prise de conscience, c'est que tout ce que fait Jésus a pour but de nous mener vers le Père. Tout ce que fait Jésus a pour but de nous mener vers le Père. Or, il peut y avoir dans notre cœur, en fait, une envie d'utiliser Dieu comme un instrument. Non pas comme une fin, « Seigneur, nous allons vers toi qui est notre bonheur. » Mais il peut y avoir la tentation de dire, « Seigneur, tu dois être un bon instrument pour que j'atteigne mes objectifs. » Comment cela ? Je vous présente deux choses. On peut dire au Seigneur, « Seigneur, là j'ai un entretien d'embauche, sois avec moi pour que je réussisse mon entretien d'embauche. » Mais c'est un peu dans l'idée, voilà, si j'ai réussi mon entretien d'embauche, « Seigneur, tu as accompli ta mission, tu peux t'en aller maintenant, j'ai ce que je veux. » Là, on est en train de se détourner justement de la sagesse véritable. La sagesse véritable, c'est « Seigneur, sois avec moi dans mon entretien pour que mon travail me mène vers toi. » Il doit être finalisé vers toi. Ou pour prendre un autre exemple, on pourrait prier en disant « Seigneur, donne-moi de rencontrer celui qui sera mon époux, mon épouse. » Là encore, je suis en train de regarder le Seigneur simplement comme un instrument. Voilà, donne-moi un époux, une épouse, et puis après, tu peux retourner à tes occupations, j'ai ce que je voulais. Alors que ma prière serait appelée à être plutôt « Seigneur, donne-moi de rencontrer le conjoint avec qui avancer vers toi sur le chemin de la vie, toi qui es notre bonheur, à lui, à moi, à elle, à moi. » Vous voyez, c'est retourner ceci, Dieu est notre bonheur, c'est vers lui que nous marchons, c'est vers lui que nous orientons notre œuvre, et non pas Dieu comme un instrument pour exaucer mes vœux. Il y a une tentation toujours un peu païenne en nous de faire de Dieu une espèce de baguette magique pour exaucer nos souhaits. Je jette une pièce dans la fontaine et je fais un vœu. Je jette une prière dans l'église et je fais un vœu. La prière, c'est « Seigneur, je veux vivre, marcher avec toi. » C'est la première façon, justement, de poser le joug du Seigneur Jésus sur nos épaules pour marcher à sa suite vers le Père. Eh bien, Seigneur, en ce dimanche, nous nous tournons vers le Christ, notre sagesse. Il est le chemin qui nous permet de passer de la lassitude, de la pénibilité du travail, à la joie de marcher vers le royaume. Donne-nous de revêtir son joug qui est léger, qui est aisé et qui nous permet d'avancer vers toi. Que le Seigneur Jésus nous remplisse de sa présence, de sa douceur, pour que nous puissions mener à bien l'œuvre que tu nous destines, toi le Père bienveillant, que nous y trouvions du goût et de la joie dès cet été qui commence. Amen.